comme il y a pas mal de questions.
Alors, mon père, il y a d'abord une série de questions sur un débat de plusieurs frères sur des questions qui concernent la grâce.
Alors, c'est très délicat, parce qu'il ne faut pas croire qu'on va se mettre à se batailler l'un contre l'autre. Et je vous dis ce que je pense être la vérité. Alors, c'est dommage qu'il n'est pas là. Mais ça fait rien, comme on n'est jamais ensemble.
Alors, la question était formulée de différentes manières. La première manière, c'est Dieu donne-t-il sa grâce à tous de la même manière ?
Voilà, toujours la même question. Nature et personne. La grâce est donnée à la personne en vue de notre béatitude. La grâce vous est donnée pour notre béatitude. Elle ne vous est pas donnée pour qu'on soit intelligent, qu'on ne soit pas une vache. Elle ne vous est pas donnée pour qu'on soit pas rationnel. Elle nous est donnée pour notre béatitude du ciel. C'est la finalité qui commande tout. Puisque Dieu agit toujours par sagesse. Et dire que Dieu agit par sagesse, c'est dire qu'il agit librement, avec cette liberté. Et c'est sa sagesse qu'il fait agir comme créateur. Et surtout au plan surnaturel, le plan de la grâce. Prenez toutes les paraboles de Jésus. Jésus, la fameuse parabole de la parole de Dieu. Vous voyez d'autres paraboles ?
La parabole des talents ?
Les talents. Il donne à l'un un, il donne à l'autre deux, et on voit que ce sont ceux qui ont reçu plus qui donnent plus. C'est aussi sa signification, ça. Alors,
c'était très proche de ce que vous avez retenu. Quelle est la conséquence du fait que nous avons tous la même nature dans le don de la grâce ?
Nous avons tous la même nature, mais nous n'avons pas tous la même finalité. Oui, nous l'avons tous, la finalité de voir Dieu, mais nous ne voyons pas Dieu tous de la même manière, plus ou moins, le ut in pluribus. Mais la grâce n'est pas donnée à la nature, elle est donnée à la personne. C'est sûr. Alors, cette personne a la même nature que tout le monde, oui, que tous. Et elle se développe très différemment. Et la personne regarde la finalité. Déjà, notre nature regarde la finalité. C'est sûr, dans la nature humaine, en raison de l'intelligence et de la volonté, cette nature est personnelle. Et en raison de son intelligence et de sa volonté, la grâce est donnée à tous comme grâce chrétienne. Elle est donnée selon le bon plaisir de Dieu. Et Dieu ne commet pas d'injustice en donnant Marie une grâce unique. En donnant à Pierre une autre grâce, à Jean une autre grâce, donnant à Joseph une autre grâce, donnant une autre grâce par rapport à l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'injustice d'être né au temps d'Abraham et d'avoir été son fiston. Isaac. Il est bien heureux d'être Isaac. L'enfant du rire. Bon, après.
Bon, ça rejoint un petit peu la formulation suivante. Au ciel aurons-nous tous la même vision béatifique. Si ce n'est pas le cas, comment saisir que cela n'est pas injuste?
La vision béatifique est donnée par pure gratuité d'amour. Nous ne pouvons pas dire que nous méritons notre grâce. Elle est donnée par pure gratuité d'amour. À chacun selon le bon plaisir du Père. Et le bon plaisir du Père tient compte de nos mérites. Mais il n'est pas tenu en justice à nous donner exactement selon nos mérites.
Il y avait une toute dernière formulation. Comment comprendre que si Dieu donne sa grâce selon sa libéralité et sa sagesse à un niveau personnel, cela n'est en aucune manière le signe d'une puissance purement arbitraire? La manière différente dont Dieu donne sa grâce ne nous révèle-t-il pas son despotisme absolu?
Son
despotisme absolu.
Ça nous révèle son amour. Sa toute puissance aimante. Venez, c'est toujours la même chose. On n'a pas compris la différence entre l'univocité et l'analogie. Le don de la grâce est un don qui est selon le bon plaisir de Dieu, qui est purement gratuite, qui est au-delà de toute justice, qui est en bon plaisir de Dieu. C'est sûr que c'est très curieux, c'est très cocasse que Dieu ait voulu qu'il y ait une nature humaine qui, en tant que nature humaine, c'est la même nature humaine. Et en tant que cette nature humaine est en vue du développement d'une personne, Dieu a voulu donner sa grâce de façon personnelle.
Ensuite, il y avait d'autres questions par rapport à la théologie biblique sur le gouvernement divin. Alors, une première question sur un cours plus ancien par rapport au paradis terrestre. Dieu place les chérubins pour empêcher l'homme blessé dans sa nature d'accéder à l'arbre de vie, c'est-à-dire à la vie éternelle. La nostalgie d'une vie éternelle en l'homme est-elle plus forte que tout jusqu'au point de vouloir l'atteindre même avec sa nature blessée? Dieu ne semble pas vouloir que l'homme demeure ainsi éternellement dans cet état blessé. N'est-ce pas une première miséricorde de Dieu d'empêcher l'homme d'accéder à l'éternité dans son nouvel état corrompu? Donc la question c'est, est-ce que quand Dieu place les chérubins pour empêcher l'homme d'accéder au paradis terrestre, est-ce que c'est déjà une miséricorde de Dieu?
Sûrement, c'est une miséricorde de Dieu, mais c'est parce que c'est pour nous rappeler, c'est pour nous, c'est pas par rapport à Dieu. Les chérubins ne sont pas là par rapport à Dieu, ils sont par rapport à nous. Pourquoi les chérubins sont-ils là? c'est parce que notre nature humaine aura une nostalgie du paradis terrestre. Il y a une nostalgie fondamentale en nous, celle du paradis terrestre. Nous avons connu, nous, dans notre nature humaine, une noblesse étonnante, celle d'Adam. Celle de notre mère Ève. Alors, nous avons, par le fait même, cette espèce se réveille de temps en temps, qui s'exprime en voulant retrouver par nous-mêmes, par nos efforts, par notre travail, retrouver un bonheur parfait. C'est à cause de ça, je crois. Et c'est la mémoire inconsciente de la nature. Notre nature a connu quelque chose d'extraordinaire. Notre nature humaine a connu le paradis terrestre. C'est quand même pas mal, ça. Alors, qu'il y ait une nostalgie fondamentale en nous, très bien. Et certaines idéologies nous rappellent ce désir intense que nous avons et que nous portons en nous de pouvoir être ce qu'on aurait été si le péché n'a pas eu lieu. On oublie facilement ces péchés. Et on n'oublie pas ses promesses. Il y avait quelque chose de très cru à faire. C'est qu'on oublie ses péchés, on oublie le péché d'Ève. On dit pauvre Ève, notre mère. On en a plusieurs de mères. Il y a Ève, il y a Marie, il y a nos propres parents. Ça en fait trois. Trois maternités. Une certaine maternité radicale. Ève, elle est notre mère. Et on sera heureux de la trouver. Il y a une maternité qui transforme tout. Marie. Et puis une maternité immédiate, celle de notre mère. On a donc constamment ces trois maternités qui ne sont pas toujours d'accord. Et nous portons en nous les effets de ces trois maternités, les conséquences de ces trois maternités. Alors, cette nostalgie du paradis terrestre, Dieu sait qu'on l'a. Alors, Dieu veut nous indiquer qu'il ne faut pas suivre cette nostalgie. Cette nostalgie interdit de prendre cette route-là. C'est fermé. On la retrouve dans toutes les idéologies fausses. Elles sont des nostalgies du paradis terrestre. Le communisme est une nostalgie du paradis terrestre. La nostalgie la plus radicale. Le socialisme est une nostalgie du paradis terrestre. voyez, au fond, Dieu met l'ange à la porte pour nous avertir. Puisque tout ce que fait Dieu, il ne le fait jamais inutilement. Donc il le fait parce que c'est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'on a en soi, au plus intime de soi, cette nostalgie de retrouver le paradis terrestre. Comme c'est une nostalgie, elle est différente selon les époques. Et ce serait très intéressant d'étudier, parce qu'alors c'est terriblement historique, hein, ces nostalgies, d'étudier la diversité de ces nostalgies. Ça montrerait d'une façon unique que cette nostalgie est quelque chose de très fondamental. Ce serait intéressant.
Alors. Ensuite, il y a des questions sur le cours sur Abraham.
Oui.
Alors, les différentes questions portent sur la descendance d'Abraham.
Notre père.
Première question. Peut-on parler d'un manque de foi de la part d'Abraham qui, sachant qu'il aurait une descendance, mais ne pouvant l'avoir de sa femme, se tourne vers sa servante ? Il ne croit donc pas que Dieu est capable de tout.
En se tournant vers sa servante, il croit que Dieu est capable de tout. Parce que qu'on dit ordinairement, c'est que il y avait une telle nécessité de la procréation. C'est quelque chose qui s'imposait comme un premier devoir. Et que si, justement, pour une raison ou pour une autre, il ne pouvait pas avoir d'enfant légitime. La servante, c'était une coutume. Alors, évidemment, elle n'avait pas cette limpidité de nos coutumes et traditions chrétiennes. C'était quelque chose qui montrait que l'exigence d'avoir une descendance, c'était capital à la nature humaine. Vous voyez, le primat de la nature, parce que la fin de la nature humaine, c'est la procréation. La fin de la nature humaine, pas de la personne. Et avant d'arriver à une espèce de perfection de la personne, il y a comme un premier âge où le point de vue de la nécessité de la descendance apparaît comme premier. Donc, pour Abraham, c'était son devoir. Une faute, c'était son devoir de demander à la servante de remplacer sa femme légitime pour avoir une descendance. Et c'est bien comme ça qu'on regarde le texte. Et son épouse légitime accepte ça. Elle le fait comme un acte courageux de générosité pour que Abraham ait une descendance. C'est qu'au fond, la notion de la descendance était beaucoup plus forte que pour nous, parce que la notion de la nature était beaucoup plus forte. Thank you. on ne voyait pas encore très bien comment il pouvait y avoir une exigence personnelle au-delà de la nature. C'est comme ça que je l'explique. Et ça, je crois que c'est l'explication ordinaire qu'on donne. Il ne faut pas appliquer à Abraham la morale chrétienne que nous avons. Abraham a sa morale à lui, qui est de son époque et qui était bonne pour lui. L'infécondité de Sarah est une conséquence du péché. Et cette infécondité a existé à partir du péché. Parce qu'elle est une frustration terrible de ce pourquoi la nature existe. Cette frustration, c'est la fécondité. Et la fécondité est considérée justement comme une frustration de la nature, de la finalité naturelle de la nature humaine. Nous avons une notion beaucoup plus personnelle de la personne. Plus pur.
Il y a deux questions un peu semblables. Dans la lumière du gouvernement de Dieu, pourquoi cette double descendance d'Abraham, Isaac et Ismaël? Et puis formuler un petit peu différemment, que la descendance d'Abraham se réalise d'abord à travers Ismaël, est-ce un vouloir de Dieu ou une permission?
C'est un vouloir de Dieu. Puisque que Sarah soit stérile, c'est une volonté de Dieu. Donc, c'est que Dieu a voulu, alors ça fait partie de ces volontés mystérieuses de Dieu qui nous dépassent. Dieu a voulu réaliser le point de vue naturel et le point de vue personnel. C'est déjà une première distinction pour moi des deux. C'est que, au fond, au point de vue de la nature, Sarah est stérile. Abraham n'est pas stérile. Donc, la nature laissée à elle-même conduit à la stérilité. Or, Dieu veut qu'Abraham, il lui fait ses promesses, et une descendance extraordinaire. Alors, c'est la volonté de Dieu, ça. Et comme, à cette époque-là, c'est permis, si la fécondité, si l'épouse légitime ne peut pas avoir d'enfant, de demander à la servante. C'était permis. Une permission de Dieu. Parce que le point de vue de la pureté de la nature n'était pas encore avec autant vécu avec autant de force. Donc Dieu a voulu nous donner l'exemple d'une fécondité naturelle et d'une fécondité personnelle. Je crois que déjà, nous voyons là la distinction entre nature et personne. Au point de vue nature, la servante est là, et on peut avoir Ismaël. Au point de vue personnel, Dieu permet ensuite que la personne puisse retrouver tous ses droits naturels. La personne d'Abraham à l'égard de son épouse légitime. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis ça ? Pour que nous comprenions mieux le point de vue de la permission de Dieu et du point de vue de la réalisation parfaite. Que la cousine, que la femme non libre, l'esclave, soit féconde et donne par le fait même à Abraham un vrai fils selon sa chair, mais pas selon son cœur. Vous voyez, il y a déjà là la manifestation de la différence de la nature et de la personne. Et je me demande si c'est pas pour ça que ça existe. Parce que Ismaël devrait satisfaire entièrement Abraham. Non. Pourquoi ? Ah, parce que personnellement, Abraham n'est pas satisfait. Personnellement, Abraham aime plus Sarah. Elle est l'épouse légitime. Et d'une certaine façon, Ismaël, au point de vue nature, paraît comme un gars plus parfait que Isaac. La preuve, c'est quand l'autre grandit, il est un peu sous sa domination. Alors intervient là cette chose très curieuse et très intéressante, l'héritage. Sarah est jalouse de l'héritage pour Isaac. Et si l'héritage est partagé, il sera moins gros. Et la question de l'héritage joue, va jouer. Et comme c'est étonnant, or, l'héritage est lié à la paternité. Une paternité n'est parfaite comme paternité que si on hérite ce que le père possède, la béret, l'avoir du père, qui est donné au fils en héritage. Et l'héritage du fils serait moindre si Ismaël aurait continué d'être un fils pas légitime, mais un fils naturel, accepté par Abraham. Parce qu'il y aurait nécessairement l'autre aussi qui hériterait. Et comme c'est de la femme libre, il hériterait plus. Alors, est-ce qu'il intervient dans sa décision d'Abraham, c'est Sarah a été astucieuse, c'est que l'héritage sera divisé. Et donc, Isaac ne saura pas l'héritage parfait. a toujours semblé très intéressante. L'héritage intervient. Cette notion d'héritage est très intéressante. Parce que quel est l'héritage de Dieu? C'est sa béatitude. Et la grâce permet de nous d'être des fils adoptifs, mais des fils réels. Et réels parce que on reçoit l'héritage. Et l'héritage, c'est la béatitude. Ça fait comprendre ce qu'est la paternité. La paternité, ce n'est pas seulement le point de vue de engendrer, mais la paternité, c'est que tout soit donné au Fils pour qu'il puisse vivre de l'héritage du Père, qu'il puisse recevoir l'héritage du Père. Et cela, ça fait partie de ce qu'est la notion même de paternité. Le Père peut déshériter. Et quand le Père déshérite, c'est la question de l'héritage. Ça montre, vous voyez, que la paternité ne peut pas se ramener à la nature engendrée. Mais la paternité est personnelle. Et donc, si elle est personnelle, elle regarde la finalité. Elle implique l'héritage. C'est très étonnant de voir l'importance de l'héritage. Comprendre ce que c'est que la paternité. Le père, vraiment père, c'est celui qui donne à ses enfants son héritage, son bonheur.
Merci mon père.
Après,
c'était la dernière.
Ah, c'était la dernière. Très bien. Vous voyez, pour bien comprendre la notion de la paternité, c'est très important de comprendre cela. Pour bien comprendre que le point de vue engendrement est un élément de la paternité. Mais la paternité est surtout dans le fait de la finalité. Je dis ça, et c'est très important de le rappeler aux gens qui adoptent. Pour une raison ou pour une autre, ne pouvant pas avoir d'enfants de leur épouse légitime, ils adoptent. Et dans l'adoption, l'héritage paternel est communiqué et donné. On donnera à l'enfant adopté la même éducation qu'à un enfant vrai. Et de ce point de vue-là, alors, on voit que l'adoption est plus riche que la paternité selon la nature. On donne ordinairement 60 et 40. C'est très curieux. Ça, c'est évidemment, c'est un sans-portage. Grâce à l'adoption, il y a une ressemblance 60%. Et uniquement le fait d'avoir été engendré par telle personne, c'est le père, mais ne pas avoir été éduqué par lui, 40% de ressemblance. comprends que c'est vrai, ça. Parce que ça me semble très intéressant, ça. Parce que ça arrivera. Vous aurez surtout, sûrement, des cas particuliers d'adoption. Il faut valoriser le plus qu'on peut l'adoption. Pas valoriser en prenant des arguments vrais. Mais ces arguments, nous les avons dans l'Écriture. Parce que l'Écriture insiste énormément sur le fait que l'adoption ne peut être parfaite que lorsque la finalité est réalisée. Au fond, dans le point de vue humain, le point de vue de l'adoption, est quelque chose de plus grand que le point de vue simplement du lien qui existe avec le point de vue nature engendrée. Mais ça montre bien, je trouve, le dépassement de la personne par rapport à la nature. Parce que même la finalité de la nature, c'est l'engendrement. Puisque ça existe même des animaux qui engendrent quelqu'un de même espèce qu'eux-mêmes et qui meurt en l'engendrant. C'est très curieux, ça, comme loi de la nature. Montrer que l'engendrement est vraiment la finalité. Et quand cette finalité est accomplie, on peut disparaître. Ça existe, hein. Les animaux qui meurent en donnant la naissance à leur enfant. Et ceci nous montre, quand on regarde ces liens, ceci nous montre combien, au-delà du point de vue de la nature, il y a ces liens spirituels de la paternité, et qui sont plus forts, et qui vont plus loin. Alors, la dernière fois, on était resté à la question d'Abraham, dans le gouvernement divin. Et on avait, dans ce gouvernement divin sur Abraham, on avait le sacrifice d'Isaac, qui était sûrement quelque chose de très grand, puisque ceci montre que l'obéissance à Dieu est plus que la transmission de vie. Et Dieu peut, ça doit nous enseigner ça, Dieu peut réclamer à Abraham l'offrande de son fils. Son fils, qu'il aime d'une façon tout à fait spéciale, puisqu'il a fallu le dépassement par rapport à Ismaël pour que le lien avec Isaac soit parfait. Donc, Dieu a voulu une réalisation très particulière pour l'apparition, la naissance d'Isaac, pour nous montrer combien le Père l'aimait. Il fallait montrer d'abord le prix des liens de sang. Et deuxièmement, le prix des liens de l'offrir. Et l'offrande d'Isaac fait partie de l'amour d'Abraham. Son père pour lui. Parce qu'il doit montrer qu'il aime mieux d'obéir à Yahvé que de rester avec son fils. Et que par le fait même qu'il réalise cette obéissance à Yahvé, il peut aimer Isaac d'un amour tout à fait nouveau, l'amour qu'il a pour Yahvé. Il aime son fils d'un amour nouveau. Et c'est pour ça qu'il est prêt à offrir son fils en sacrifice. Et il l'a réalisé intentionnellement, réellement, mais Dieu a arrêté l'exécution. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.